de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, en Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie obtient 185 millions de doses de vaccins en raison d'une pénurie d'approvisionnement ». Le président Jokowi, l'Indonésie a commencé à exporter du riz vers l'Arabie Saoudite. Libérer le contingent de Paralympique Tokyo 2020, le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie dit « rentrer avec fierté ». Le président Jokowi a publié l'exportation de produits agricoles de 17 ports. L'inondation et glissement de terrain au Japon, en mort et deux perdus. Les talibans s'approchent de Kaboul. L'Allemagne réduit le nombre d'employés de l'ambassade. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le gouvernement indonésien avait reçu 185 millions de doses de vaccins, à la fois sous forme de vaccins prêts à l'emploi et de vaccins en vrac. Retno Marsudi, lors du 6e congrès mondial du réseau de la diaspora indonésienne, a déclaré samedi que dans la situation actuelle de pénurie de vaccins, il n'était pas facile de garantir l'approvisionnement en vaccins. Son parti continue de travailler pour sécuriser les doses pour l'Indonésie afin qu'elles répondent vraiment aux besoins de la communauté. La diplomatie indonésienne travaille dur pour sécuriser les vaccins pour le peuple indonésien par le biais de canaux bilatéraux et multilatéraux. À cette occasion, la ministre des Affaires étrangères a expliqué que le gouvernement indonésien continuait d'accélérer la vaccination et d'imposer des restrictions à la mobilité communautaire pour faire face à la pandémie de COVID-19 dans le pays. Concernant l'accélération de la vaccination, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que jusqu'à présent, l'Indonésie a injecté plus de 80 millions de doses de vaccins, soit l'équivalent de vaccins à 28,6% de la population totale en Indonésie. Le président Joko Widodo a déclaré qu'à ce moment-là, l'Indonésie avait commencé à exporter du riz vers l'Arabie Saoudite. Le président a rappelé que la question des exportations de riz devrait être calculée en considérant d'abord les besoins nationaux à riz. C'est ce qu'a déclaré le président Jokowi lors d'un discours virtuel à l'inauguration du programme de liberté d'exportation 2021 du Palais de Bogor samedi dernier. À cette occasion, le président Jokowi a également exprimé sa gratitude aux agriculteurs et aux éleveurs, planteurs, acteurs de l'agro-industrie et autres parties prenantes agricoles. En effet, selon le président Jokowi, pendant la pandémie de COVID-19, Ils ont travaillé dur non seulement pour répondre aux besoins alimentaires de la communauté, mais ont également réussi à augmenter les exportations de produits agricoles. Le chef de l'État a révélé que l'agriculture était l'un des secteurs qui peuvent survivre à la pandémie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, Zainuddin Amali, a confirmé, tout en libérant le contingent indonésien, qui concourrait virtuellement à Paralympique de Tokyo 2020 samedi dernier. Zainuddin a conseillé qu'aucune différence de sport et de limitation ne devenait pas une barrière à la réalisation. Au total, 23 athlètes de 7 numéros sportifs représenteront l'Indonésie à l'événement paralympique de Tokyo 2020 qui a eu lieu le 24 août au 5 septembre 2021. Le ministre de la Jeunesse et des Sports espère que tous les athlètes sélectionnés sont en mesure de fournir les meilleures réalisations pour rendre le nom de la nation. Armé de toutes les préparations qui ont été faites de manière optimale, on pense que les athlètes indonésiens Paragames atteignent la cible aux Paralympiques de Tokyo 2020 cette fois-ci. Le président Joko Widodo a publié simultanément l'exportation de produits agricoles de 17 ports, de ports aériens et maritimes en tant qu'élan pour renforcer l'exportation de produits agricoles indonésiens et marquant la montée de l'économie nationale au milieu de la pandémie. Le président Jokowi, par la conférence vidéo au palais présidentiel de Bogor, samedi a déclaré que l'agricole était l'un des secteurs susceptibles de survivre de l'impact de la pandémie. Il a expliqué l'exportation agricole de 2020, telle que livrée par le ministre de l'Agriculture, on atteint 451,8 trillions de rupiahs, en hausse de 15,79% par rapport à 2019 autour de 390,16 trillions de rupiahs. Au cours du premier semestre de 2021, de janvier au juin 2021, les exportations de produits agricoles ont atteint 282,86 trillions de rupiahs jusqu'à 14,05% par rapport à la même période de 2020, soit 202,05 trillions de rupiahs. Selon le président, l'augmentation de l'exportation de produits agricoles a également une incidence sur l'augmentation du bien-être des agriculteurs. Une femme a été retrouvée morte et les deux autres ont été rapportés disparus samedi après une très forte pluie a causé un glissement de terrain qui ensevelit deux maisons de la préfecture de Nagasaki au Japon. Un certain nombre de domaines du pays ont enregistré un record de précipitations et le gouvernement avait élargi le niveau d'urgence le plus élevé pour protéger plus d'un million de résidents. Une région a enregistré des précipitations atteignant 408 mm au cours des 72 dernières heures samedi. Le débordement des rivières dans un certain nombre de zones de la préfecture de Hiroshima et des conditions dans d'autres régions de la partie occidentale du Japon sont très dangereuses. L'Agence de météorologie japonaise a rappelé que la pluie susceptible continuerait à tomber dans le pays pendant une semaine. Les autorités allemandes ont décidé de réduire le nombre d'employés de son ambassade à Kaboul lorsque le groupe taliban s'est approché de la capitale afghane. L'Allemagne a déclaré que le nombre de membres du personnel de l'ambassade serait au niveau du minimum absolu pour le moment. Rapporté par l'AFP samedi, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré que l'évacuation du personnel diplomatique de Kaboul sera effectuée dans les prochains jours à la suite d'une étape similaire prise par les États-Unis et l'Angleterre. Il enverra l'équipe de soutien à la crise à Kaboul pour aider à améliorer les précautions de sécurité pendant les retraites du personnel. Il a souligné que l'ambassade allemande à Kaboul serait peut toujours fonctionner même si son personnel était réduit. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Gagnant Pancasila.
Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le gouvernement lance un programme d'études indépendantes sur l'électricité solaire ». Le ministère de l'Éducation et de la Culture, de la Recherche et de la Technologie et le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales ont collaboré pour lancer le programme de mouvement de l'initiative solaire ou en indonésien, Programme Gerakan Inisiatif Tenaga Surya, ou abrégé en Guerilla. Ce programme vise à préparer les étudiants à devenir des militants de l'énergie propre par le débriefing et l'expérience. Guerilla est l'une des activités d'études indépendantes du campus Merdeka qui produit des militants de l'énergie propre avec l'intelligence d'innover. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Nadim Makarim, lors du lancement du programme Guerilla en ligne vendredi. Nadim a déclaré qu'au cours d'un semestre, les participants à la Guerilla apprendront indépendamment et avec des mentors pour pouvoir développer des centrales solaires sur le toit en tant que solution innovante d'énergie propre. Le programme est destiné aux étudiants exacts qui souhaitent obtenir 10 à 20 crédits en un semestre en suivant 3 mois de cours et 3 mois de projets en équipe. Plus tard, ils seront accompagnés par plus de 15 enseignants professionnels et plus de 20 mentors accompagnateurs. Lors du même événement, le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Arifin Tasrif, a déclaré qu'il était optimiste que l'utilisation des centrales solaires sur le toit pourrait être accélérée par le rôle actif de toutes les parties, y compris les étudiants et les jeunes générations à travers le mouvement de l'initiative solaire. Le gouvernement espère que les compétences des étudiants en matière d'énergie renouvelable seront perfectionnées et formées par le programme, accélérant ainsi le développement de nouvelles énergies renouvelables en Indonésie. Selon lui, le programme Guerilla produira des militants de l'énergie propre issus de la jeune génération. Cela contribuera à accélérer l'utilisation des toits solaires et à soutenir la réalisation d'un nouveau mix d'énergie renouvelable de 23% en 2025. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales prévoit que l'Indonésie a un potentiel d'environ 32 000 MW d'énergie provenant des centrales solaires sur le toit, mais la capacité installée d'électricité solaire sur le toit n'est actuellement que de 31 MW. Le gouvernement affine la réglementation des centrales solaires sur les toits afin d'attirer l'intérêt du public et l'industrie pour utiliser l'électricité propre.
Check mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuan bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 15 août. On commence par le 15 août 1947, l'indépendance de l'Inde. Le jour de l'indépendance de l'Inde est célébré chaque année, le 15 août, en tant que fête nationale en Inde, pour commémorer l'indépendance de la Grande-Bretagne, le 15 août 1947. Ce jour-là, le Parlement anglais a adopté la loi sur l'indépendance des Indiens qui a cédé la souveraineté législative à l'Assemblée constituante de l'Inde. Le jour de l'indépendance est célébré dans toute l'Inde avec des cérémonies de levée de drapeaux, des défilés et des événements culturels. Ce jour est une fête nationale. Le 15 août 1962, la signature de l'accord de New York. L'accord de New York est un accord initié par les États-Unis en 1962 pour le transfert du pouvoir sur la Papouasie occidentale des Pays-Bas à l'Indonésie. L'accord de New York a été motivé par les efforts de l'Indonésie pour s'emparer de la partie occidentale de la Papouasie au néerlandais. Lors de la conférence de la table ronde à La Haye, lorsque les Néerlandais ont reconnu la souveraineté de l'Indonésie, on a été déclaré que la question de la Papouasie occidentale serait résolue dans l'année suivante de la table ronde. Mais jusqu'en 1961, cela n'a pas été résolu. Les États-Unis, craignant que l'Union soviétique ne devienne de plus en plus puissante dans l'intervention sur la question de la Papouasie occidentale, ont exhorté les Pays-Bas à mener des négociations avec l'Indonésie. La délégation indonésienne était dirigée par Adam Malik et les Pays-Bas par le Dr. Van Rooijen, tandis que E. Bunker des États-Unis est devenu l'intermédiaire. Le 15 août 1962, l'accord de New York a été obtenu, qui contenait la reddition de la Papouasie occidentale des Pays-Bas par l'intermédiaire de l'autorité exécutive temporaire des Nations Unies. Le 15 août 2005, le traité de paix d'Aceh a été signé à Helsinki, en Finlande. L'accord de paix d'Aceh était un accord qui a mis fin au conflit dans la région spéciale de la province d'Aceh. Ce conflit a commencé en 1975 lorsque Hassan Tiro a mené un mouvement de mécontentement contre le gouvernement indonésien de l'époque. C'était devenu une zone d'opération militaire par le gouvernement au pouvoir pour mettre fin au conflit à Aceh. Cependant, le grand tremblement de terre qui a suivi le tsunami de décembre 2004 avait emmené le mouvement d'Aceh et le gouvernement de l'époque à négocier pour mettre fin au conflit qui avait duré plus de 25 ans. Le 27 février 2005, le mouvement Aceh et le gouvernement indonésien ont entamé la phase de négociation à Vantaa en Finlande. Enfin, le 15 août 2005, la signature du protocole d'accord de paix a eu lieu. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Yeah.
la première chanson indonésienne, J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici donc mon Indonésie.
Voici mon Indonésie dont le titre est « Le gouvernement construira un centre d'entraînement des athlètes à Cibubur ». Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Menpora Zainuddin Amali, a déclaré que le gouvernement construirait un camp d'entraînement à Cibubur, Jakarta de l'Est, en tant que terrain d'entraînement centralisé pour les athlètes de divers sports en vue des Jeux Olympiques. Selon Zainuddin, la construction du centre d'entraînement est une étape du gouvernement non seulement pour améliorer les performances sportives nationales aux Jeux Olympiques, mais aussi pour un centre d'entraînement pour les athlètes nationaux de sorte qu'ils ne sont plus dispersés comme ils le sont maintenant. Cependant, le camp d'entraînement ne sera réservé qu'aux sports supérieurs qui sont régulièrement disputés aux Jeux Olympiques tels que l'haltérophilie, l'athlétisme et le tir à l'arc. Pendant ce temps, spécifiquement pour la branche badminton, le ministre Zainuddin Amali a déclaré que les installations de l'Association nationale de badminton d'Indonésie, PBSI, à Cipayung, étaient suffisamment complètes, donc ils ont juste besoin d'amélioration. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, en tant que personne ressource dans le dialogue productif d'Urabu Utama, intitulé « Conseil pour réussir en période de pandémie », a expliqué mercredi que le terrain d'entraînement sera construit avec des installations complètes telles que l'hébergement comme un hôtel, les jogging pistes et diverses installations qui donnent la priorité à la science du sport. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré que les parties essaient de tirer le meilleur parti de ce qui a été fait par les pays très développés, comme dans le centre de formation principal, il y a des psychologues, des nutritionnistes, puis leurs écoles aussi, afin que leurs divers besoins soient satisfaits et qu'ils se concentrent sur l'entraînement. On va donc tout compléter, du physique, tactique, stratégique et mental, afin qu'ils soient également prêts physiquement et mentalement. Le ministre Zainuddin Amali espère qu'avec une planification et un encadrement de qualité et soutenu par des installations complètes, le camp d'entraînement de Cibubur pourra améliorer les performances sportives nationales et réussir dans les tournois internationaux, en particulier aux Jeux Olympiques. C'est tout mon Indonésie.
Dalamnya lautan akan kuarungi gunung yang menjulang pastikan ku daki
rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini
kadang saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik
jangan pernah menyerah.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chaque région a bien sûr sa propre nourriture unique et distinctive, y compris Bengkulu, qui a des cuisines légendaires. Avant, cette spécialité culinaire de Bengkulu était un aliment de luxe parce que ce gâteau était spécialement pour les rois et les aristocrates. Mais maintenant, on le trouve facilement car il y a beaucoup de magasins qui le vendent. Ce gâteau s'appelle baitat. Habituellement, les habitants de Bengkulu servent baitat en particulier à la fête et aux autres jours importants. Pendant le mois de juin, baitat est généralement la cible des habitants de Bengkulu car ils le considèrent comme l'un des aliments populaires pour rompre les jeûnes. Le nom baitat vient de la langue Bengkulu. Bai signifie mer et tat du mot tarte qui signifie gâteau. En d'autres termes, baitat est une tarte typique de Bengkulu. Cet aliment est maintenant un souvenir pour les touristes. Baitat est un gâteau en forme de tarte rempli de confiture d'ananas et on le saupoudre parfois de fromage. Baitat est fabriqué à partir d'un mélange de farine de blé, de sucre, d'œufs de poule, de beurre et de lait de coco. Ensuite, on a étalé de la confiture d'ananas sur cette pâte puis on l'a cuite. Après la torréfaction, baitat émettra généralement un arôme distinctif de lait de coco. Le gâteau de baitat a une texture moelleuse mais aussi un peu croquante. Le goût de la confiture d'ananas est délicieux et juste sur la langue. Ce gâteau baitat est parfait pour une tasse de café et de thé. Habituellement, avant de servir, ce gâteau baitat est d'abord coupé en morceaux. Car on vend généralement baitat sous forme de carré ou de cercle, plat et un peu épais. Thank you. L'amour du peuple de Bengkulu pour le gâteau baitat fait de cet aliment un symbole de tourisme de Bengkulu. Pour les amateurs de cuisine qui visitent Bengkulu, n'oubliez pas d'acheter ce baitat pour des souvenirs ou pour manger en se relaxant. Le prix d'un moule à gâteau baitat est d'environ 25 000 roupias.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur. Les spécialités indonésiennes retiennent à nouveau l'attention de la communauté asiatique en raison de leur caractère délicieux. Auparavant, le rendang de Sumatra de l'Ouest était la nourriture la plus savoureuse du monde, d'après CNN. Cette fois-ci, c'est le rawon de Java de l'Est qui a réussi à devenir la soupe la plus délicieuse d'Asie en 2020 par Taste Atlas. L'enquête a été menée par Taste Atlas, comme le rapporte le compte Instagram @siasia.co. Taste Atlas est un site qui traite de la gastronomie au monde. Taste Atlas propose environ 20 000 plats, boissons et produits d'épicerie du monde entier. Il y a aussi environ 15 000 restaurants rassemblés par une équipe de 30 écrivains et chercheurs. Taste Atlas a mené une enquête pour déterminer les 12 soupes les plus délicieuses d'Asie et rawon se classe au premier rang des soupes les plus savoureuses d'Asie. Rawon est un aliment typiquement indonésien originaire de Java de l'Est sous forme de soupe à la viande noire. Cette sauce noire est faite d'un certain nombre d'herbes et d'épices appelées kluwe. Outre les morceaux de viande, le rawon est servi avec des pousses, germes de soja courte, du citron vert, des craquelins de crevettes et des œufs salés. La position de rawon a battu la soupe de viande bulalo des Philippines à la 12e place. Rawon a également réussi à battre la soupe malaisienne typique, à savoir Penang Laksa et Assam Laksa aux 4e et 5e positions. Pendant ce temps, en 3e position se trouve également l'Indonésie, à savoir Gulai Cincang de Sumatra de l'Ouest. Non seulement le rawon et Gulai Cincang qui sont inclus dans la liste des soupes les plus délicieuses d'Asie. Il y a aussi le sayur asam indonésien typique occupant la 12e position. On a nommé rawon comme la soupe la plus délicieuse d'Asie après avoir passé par un processus d'enquête basé sur l'évaluation des critiques des restaurants professionnels. En outre, jusqu'à 63 402 panélistes ont également voté.
Cinta kau dah cinta kau dalam hening. Katakanlah
membatu tanah, diam membisu jasa, waktu berpaling mencari cinta yang lain. Pecahkan senyummu meski ku cinta kau dalam hening.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à tous. Cette fois, je vous donne une chanson de Raïssa. Raïssa et Andy Rianto, un compositeur de chansons, ont sorti un nouveau single intitulé Bahasa Kalbu le 28 août 2020. Le single qui avait été précédemment popularisé par une diva en Indonésie, Titi DJ, est sorti numériquement via la chaîne YouTube de Raïssa. Raïssa et Andy Rianto espèrent que le nouvel arrangement de cette chanson pourra donner une impression plus luxueuse
intime et puissante. Par la chanson intitulée Bahasa Kalbu, ou en français Langue du cœur, avec l'arrangement nuancé principal de l'orchestre, les auditeurs et les fans de Raïssa peuvent apprécier Raïssa, qui est différente de l'habituel. Auparavant, les chansons de Raïssa étaient arrangées en musique pop avec un format de groupe complet rempli des instruments de guitare, clavier, batterie et basse, comme la musique. Bon, chers auditeurs, voici la chanson du Bahasa Kalbu, ou en français Langue du cœur, en version de Raïssa et Andy Rianto. Bonne écoute!
Thank you.
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.